Ce matin, on poursuit notre thématique « Mieux vivre » à partir du livre des Proverbes, c'est ça l'idée. Et le livre des Proverbes renferme vraiment toutes sortes de sages conseils à propos de différents sujets de la vie quotidienne. C'est pour ça que la série s'est appelée « Mieux vivre ». Vraiment des sujets très pratiques, on pourrait dire. Et un thème qui revient constamment, c'est le contraste entre la personne honnête et la personne malhonnête. Entre la personne qui reste intègre sur le droit chemin et celle qui choisit le chemin du compromis, le chemin tortueux. Et nous allons voir ensemble que l'intégrité est une façon de mieux vivre notre vie et nos relations. Notre relation avec Dieu, notre relation avec nous-mêmes aussi, et même notre relation avec les autres. Et une des définitions de l'intégrité, c'est la qualité, comme je vous apprends rien, là, la qualité de quelqu'un ou de son comportement qui est intègre, qui est honnête. Mais ce matin, j'aimerais amener cette définition à un autre niveau. Et c'est pour ça que j'ai amené mon ami M. Patate. Là, je vais adresser l'éléphant dans la pièce, la patate dans la pièce. Oups, voilà. Donc, on va y venir, notre M. Patate. Mais en ce moment, on essaie de vendre notre voiture, Julien et moi. D'ailleurs, c'est des intéressés, Honda Civic 2011, 210 kilos. Alors, donc, je me promène sur les puces de Charlevoix, et aussi sur Facebook Marketplace, sur les sites de petites annonces, et c'est quand même assez drôle. Des fois, il y a toutes sortes de drôles d'annonces. Avouez, vous avez sûrement déjà vu des annonces un peu étranges, où tu sais, il y a des fautes d'orthographe, puis ça donne quelque chose de vraiment bizarre. Mais celles qui me font le plus rire, c'est quand il manque des éléments comme fondamentaux à l'objet qui font que ça rend ça complètement ridicule. Genre une voiture parfaite, tu lis là, tu regardes ça de même, ah, 3 000 $ pour une voiture de 2016, ben voyons donc, elle est parfaite, elle brille, aucune rouille, voyons donc 2016, c'est clair, t'en vas lire la description, pas de moteur, bon ben coudon, ok, oui, c'est correct, oui, mais presque neuf, tu sais, à côté, bon, c'est le fun, mais ça va juste pouvoir servir aux pièces, je comprends pourquoi c'était 3 000 $. J'en ai trouvé aussi quelques-unes, des petites annonces, et j'aimerais qu'on les regarde ensemble. C'est vraiment délicieux. On a ici un puzzle, donc un casse-tête. Ça, c'est un classique, là. Un casse-tête dont il manque une pièce, OK? Bon. Et en plus, le casse-tête est fait, et on voit, vous le voyez mal, là, mais c'est sur la tête du petit chat, il manque une pièce. Fait qu'au moins, tu sais laquelle qui manque. Ça, c'est quand même pas pire. Et la personne l'a mis en vente à 10 $, puis finalement, elle s'est dit, bon, zéro. Zéro, il est écrit, en fait, à échanger contre un autre où il manque un morceau. La fille, elle aime vraiment faire des casse-têtes où il manque un morceau. Tu sais, ça marche pas pantoute. On a une deuxième aussi. OK, ça, c'est fort, là. Siège de chaise Eiffel, mais sans les pattes. Sans les pattes. Il n'y a pas de pattes. C'est par terre. Ils sont déposés par terre. Et il est écrit ici, d'occasion, comme neuf, mon ami, non, ce n'est pas comme neuf, là, des chaises dont il manque les pattes, je dirais pas comme neuf, non, non, non. Donc, au moins, elle nous dit que c'est en très bonne condition. Bon, fait qu'il n'y a pas de pattes, mais ce qui est là est en bonne condition. C'est merveilleux. Et ma dernière, ça, c'était juste merveilleux. À donner, parce que je cherchais, vous avez sûrement vu que je cherchais un Monsieur Patate cette semaine, et là, je cherchais des Monsieur Patates cette semaine, même sur Marketplace, et j'ai trouvé à donner corps de Monsieur Patate. Juste des corps. Pas de jouets, juste des corps de Monsieur Patate. Et en plus, il est écrit, la majorité n'ont pas leur trappe arrière. Donc, OK. Fait que ça va vraiment pas bien. Au moins, c'est à donner. Oh, wow. Moi, sérieusement, quand j'ai vu cette annonce-là, là, j'ai pouffé de rire dans mon bureau. J'étais crampée. Et pourquoi est-ce que ça nous fait tellement rire, ces annonces-là? Pourquoi est-ce que ça paraît tellement absurde? C'est que les objets qui sont vendus ne sont pas vendus dans leur intégralité. Il manque des morceaux essentiels pour que l'objet remplisse son objectif, pour qu'il garde sa nature propre. Et le Larousse définit l'intégrité comme la qualité de quelqu'un qui est honnête, comme j'ai dit tantôt, mais aussi comme l'état de quelque chose qui a toutes ses parties, qui n'a subi aucune diminution, aucun retranchement. Ou encore comme l'état de quelque chose qui a conservé sans altération ses qualités, son état originel. Dans ce sens-là, les objets qu'on vient de voir ne sont pas vendus dans leur état intégral, dans leur intégralité. Et ce matin, j'aimerais vous montrer que l'intégralité, c'est beaucoup plus profond que le simple fait d'être honnête. L'intégralité, c'est une qualité qui atteint le plus profond de notre être, qui touche la nature même de notre être, en fait. Donc, première question à laquelle je vais essayer de répondre ce matin, qu'est-ce que l'intégrité, dans ce contexte-là, avec ces données-là, qu'est-ce que l'intégrité? L'intégrité, voici la définition que je vous propose aujourd'hui. L'intégrité, c'est quand toutes les composantes d'une personne agissent dans un parfait accord pour ne faire qu'un. L'être humain, OK, est complexe, vous êtes d'accord avec moi, on est des bibites complexes, on s'entend là-dessus. Et un des moyens pour essayer de le comprendre, bien, c'est de discerner ces différentes parties. Vous avez probablement déjà entendu parler des trois composantes, corps, âme et esprit. Et j'aimerais vous proposer de réfléchir à l'intégrité selon ces trois composantes ce matin. L'âme, qui se réfère à la nature profonde de chaque individu. Et l'esprit qui situait un enfant de Dieu, si t'es né de nouveau, ben c'est l'esprit de Christ qui habite en toi. L'intégrité, c'est quand toutes les composantes d'une personne agissent dans un parfait accord pour ne faire qu'un. Quand ton corps agit conformément à ton âme, en accord avec l'esprit de Christ qui habite en toi. Je répète, l'intégrité, c'est quand ton corps, donc ton comportement, ce qui est extérieur, agit conformément à ton âme, donc à qui tu es profondément, toujours en accord avec l'Esprit de Christ qui habite en toi. Et ça peut paraître quand même un peu abstrait, donc je vais vous donner quelques exemples, et c'est quand même des notions qui ont été un peu abordées la semaine passée avec Pasteur André aussi, avec l'idée de dire la vérité, de pas dire des mensonges et tout. OK, à ton ami qui te demande si son chandail est beau, mais que tu trouves pas vraiment beau, OK? Et être intègre serait de dire, ben c'est pas mon genre, mais il te fait bien. OK? Et ta parole correspond avec tes goûts, donc à qui tu es, mais aussi avec le fruit de l'esprit parce que tu réponds avec douceur. OK? Ne pas être intègre serait de mentir en disant que tu trouves que son chandail est vraiment beau. Là, à ce moment-là, tu es non seulement en désaccord avec toi-même parce que dans le fond, c'est pas vrai, tu y crois pas, c'est même pas dans tes goûts. Et en plus, ben, tu es en désaccord avec Dieu parce qu'il nous dit de pas mentir. Fait que ça marche pas. Et ne pas être intègre aussi serait de dire non, je l'aime pas ton chandail est vraiment laid. Ça non plus, dans le fond, parce que oui, t'es en accord avec toi-même, mais pas avec Christ qui nous dit d'agir avec douceur et. Ouais, c'est ça, avec douceur. L'intégrité, c'est quand ton corps agit conformément à ton âme, en accord avec l'Esprit de Christ qui habite en toi. Le problème, c'est qu'à cause du péché, il y a une tension dans ces différentes composantes-là. OK, l'apôtre Paul va dire ceci en Romains 7, 19. « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Je sais qu'est-ce qui devrait être bien, mais j'arrive pas. » Je prends plaisir à la loi de Dieu, donc j'aime le Seigneur, il n'est pas sur la diapo, je pense. Je prends plaisir à la loi de Dieu, j'aime Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. On est pris à cause du péché. Notre être intérieur, il y a des morceaux qui ne fitent pas ou qui sont altérés par le péché. Et on est souvent tiraillé justement à rester intègre parce qu'on a l'impression qu'en disant un mensonge, en n'étant pas honnête ou en ne vivant pas selon les principes bibliques, ben on a quelque chose à gagner en retour. Sinon, ça servirait à rien de faire ça. La faveur de quelqu'un, par exemple, plus d'argent, du plaisir instantané. Alors, voici la chose que tu dois éviter si tu veux rester intègre. Tu dois éviter les compromis. Éviter les compromis. Quand on n'est pas intègre, en fait, on est en train de se compromettre, de faire des compromis. Okay? La définition de compromis, c'est de faire des concessions réciproques. Donc, tu donnes une petite partie de toi contre quelque chose. Quand on n'est pas intègre, on est prêt à concéder une petite partie de nous pour obtenir quelque chose. Et là, on devient incomplet. Okay? Quand on n'est pas intègre, on est prêt à vraiment comme prendre une petite partie de nous en quelque chose, en échange de d'autres choses, une faveur, de l'argent ou quoi que ce soit. Okay, par exemple, si tu choisis de travailler au noir, tu concèdes une partie de tes principes personnels sur l'honnêteté, une partie des principes bibliques pour faire plus d'argent. OK? OK? Donc, notre monsieur patate, il va être démembré dans pas long. Ou encore, si tu choisis de mentir, ben, tu renies une petite partie de tes opinions, OK, si c'était pour plaire à quelqu'un, et des principes bibliques aussi, soit pour plaire à ton ami, comme avec l'idée de notre chandail. Donc, tu vends comme une petite partie de toi. Et là, tu commences à ressembler de plus en plus à nos corps de patate de tantôt, là. Ça va pas bien ton affaire, OK? Tu compromets une partie de toi en pensant gagner quelque chose en retour. Mais la parole de Dieu déclare que l'intégrité vaut beaucoup plus que l'argent, que la réputation ou que n'importe quoi d'autre. Dans Proverbes 19:1, on lit « Mieux vaut le pauvre qui marche dans l'intégrité que l'homme stupide aux lèvres fausses. » Proverbes 28:6, « Mieux vaut un pauvre qui marche dans l'intégrité qu'un riche qui emprunte des voies tortueuses. » Alors qu'on croit gagner quelque chose en étant peut-être malhonnête, on est prêt à faire un compromis sur certains principes pour gagner autre chose. Quelque chose, finalement, de l'argent, une faveur, réputation. C'est tout le contraire, en fait. Dieu dit que l'intégrité est encore plus précieuse que n'importe quoi. Comment tu peux faire pour éviter de faire des compromis, alors? Pour éviter de te compromettre, de vendre des petites parties de toi, pour rester total, pour rester intègre? Bien, c'est premièrement en restant fidèle à Dieu et aux principes de sa parole. Et si tu veux rester intègre, tu dois agir selon l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Rester fidèle à la parole pour que tes actions concordent avec ton identité de nouvelle créature morte au péché. L'intégrité, c'est quand ton comportement extérieur correspond à ce qui se passe à l'intérieur. C'est un peu pour ça qu'on utilise l'image du baptême. On veut démontrer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de façon extérieure. Est-ce que les gestes que tu poses, les paroles que tu prononces, correspondent à ce que Dieu enseigne? Et pas seulement ça, est-ce que ton identité intérieure d'enfant de Dieu déborde assez pour que ça paraisse à l'extérieur? Ou est-ce que tu passes incognito pendant des années à ton travail, puis finalement les gens ne savent jamais que tu es chrétien? Et l'autre aspect aussi pour être intègre envers Dieu, c'est pas seulement si ton comportement extérieur reflète les principes bibliques, mais c'est aussi si les pensées de ton cœur, les pensées secrètes à l'intérieur de ton cœur correspondent aux pensées de Dieu. Jésus a dit que c'était pas seulement le comportement qui importait, mais aussi nos pensées. Il va dire par exemple que si un homme regarde une femme pour la convoiter, bien, il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Est-ce qu'on peut avouer, OK, que c'est plus facile d'être intègre quand quelqu'un t'observe? OK? On ne le sait pas, ça, c'est quand même plus facile, là, que dans le secret d'un endroit désert, OK? Le 20$ qui est tombé de la poche de la personne en avant de toi, si tu es accompagné de ton enfant, tu vas dire, « Oh, monsieur, attention, vous avez perdu 20$. » C'est clair, hein? On s'entend, tu veux donner le bon exemple. Mais si tu es dans un stationnement à 9h du soir, un stationnement désert, il fait noir, le 20$ tombe à terre, « Ah, ben il est rendu un peu trop loin, le monsieur, dans le fond, de toute façon. » Fait que c'est plus facile de prendre le 20$ que quand t'es pas observé, en fait, quand t'es tout seul. Le danger à faire des compromis est beaucoup plus grand dans le secret de nos cœurs, dans l'isolement. Parce qu'on pense, en fait, que personne nous voit. Mais, c'est-tu vrai? Est-ce que personne nous voit? Ben non, Dieu nous voit. Vous me voyez venir, en tout cas, vous me voyez. David, dans le psaume 139, va dire, « Éternel, tu m'examines et tu me connais. » Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, OK, donc mes comportements, tu discernes de loin ma pensée. Pas juste les comportements. Dieu voit même ce qu'on pense à l'intérieur. Et de loin en plus. En d'autres termes, Dieu nous voit venir. OK? Et là, David va dire, « Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? » Dieu est là. Dieu, il te voit en tout temps. Laisse-moi donc te donner un truc pour t'aider à rester intègre, même quand tu penses que personne ne te regarde, alors que c'est faux, que Dieu est là, il te regarde. Si c'est plus facile de rester intègre quand quelqu'un t'observe, alors mon truc pour toi, imagine Jésus à tes côtés. Imagine Jésus à tes côtés. En fait, c'est ça la réalité, de toute façon. Mais imagine-le, comme ça, ça va t'aider à concrétiser la chose. Imagine Jésus à tes côtés quand tu es sur le point ou que tu te magasines une série Netflix. Okay? Il y a toutes sortes de choses sur Netflix. Ou quand tu es en train d'ouvrir une nouvelle page Internet, il y a toutes sortes de choses sur Internet. Qui est quand tu es sur le point de prendre quelque chose qui ne t'appartient pas, d'inscrire un zéro de moins dans ta déclaration d'impôt, d'envoyer un texto à quelqu'un que tu ne devrais pas, de penser à une fille qui n'est pas ta femme avec convoitise, ou de réfléchir à des plans pour te venger de quelqu'un, de penser à quelqu'un que tu n'aimes pas avec amertume, de laisser ça entrer en toi. Imagine Jésus qui est à tes côtés et demande-toi si tu serais à l'aise de faire cette chose-là avec lui. Si tu serais à l'aise de dire « Ah, voici mes pensées. » Tu sais, ah mon Dieu, la fameuse question « À quoi tu penses? » Wow! Ça, là, des fois, il y a des moments où on ne veut pas que quelqu'un nous dise « À quoi tu penses? » Hein? Ah, mais dans le fond, Dieu, il sait à quoi on pense. C'est important de garder un contrôle sur nos pensées. Et en pensant à Jésus à côté de toi, ça va te permettre de changer, premièrement, le focus de tes pensées. Okay, de mettre en lumière ce qui ne correspond pas à la parole de Dieu. Et ça va te permettre de justement remettre Jésus dans tes pensées. Et c'est normal de vivre des défis dans le secret. C'est normal, c'est la vie. On est fait comme ça. Mais dis-le à Jésus. Dis-le à Jésus comment tu te sens. Comment tu as de la colère. Comment tu... Dis-lui. Comment tu vis la tentation. Tu la vis, là, la tentation. Dis-lui. Jésus a été tenté en tout point. Mais au lieu de te compromettre de vendre une petite partie, une bonne partie là ici, là, de vendre une partie de toi contre quelque chose sur le coup, un bénéfice instantané, débarrasse-toi de ces pensées secrètes, de ces comportements faits dans le secret. Parce que la voie de l'intégrité mène à la vie. Elle vaut plus cher que tout ce que tu possèdes. Et si tu payes le prix dans le secret, Dieu va te le rendre par des richesses éternelles. Amen. Pour résumer le premier point, pour éviter de te compromettre, de vendre une petite partie de toi contre quelque chose souvent d'instantané, tu dois rester fidèle à Dieu. Mais deuxièmement, tu dois aussi rester fidèle à toi-même. Oh, ça, peut-être que ça passe moins. Tu dois rester fidèle à toi-même. Je m'explique. J'ai fait un test de personnalité il y a quelques années où ils vont lister 34 traits de caractère et ils vont les mettre en ordre, OK? En ordre, et donc les 5 premières, c'était 5 forces. C'est comme vraiment ce qui te correspond. C'était 5 forces finalement. Et donc, on s'entend que le 34e sont placés en ordre. Le 34e, disons que c'est pas tellement toi, OK? C'est pas une faiblesse, là, mais ça peut peut-être être une faiblesse. C'est pas toi, ça te correspond pas. Donc, les 5 premières en haut, c'est vraiment tes forces, c'est qui tu es, tes traits de caractère. Et j'ai lu que la probabilité qu'une personne partage tes 5 points forts dans le même ordre est de 1 chance sur 30 millions. 30 millions. OK, juste les 5. Mais dans tout l'ordre, là, 1 à 34, ben là, c'est des probabilités infinies. Mais si on regarde juste notre 30 millions, ça veut dire que dans le monde entier, il y a environ 262 personnes qui me ressemblent quand même pas mal. 262, juste pour mes cinq premiers traits. 262, c'est pas beaucoup, là, dans le monde entier, sur 7 point quelques milliards. Et c'est sans parler aussi de nos expériences de vie, de notre contexte qui nous forge en tant que personne unique. Si Dieu avait voulu créer 8 milliards d'êtres humains identiques, il aurait créé des robots à qui ça aurait été bien plus simple, pour vrai, là. En plus, il aurait même pas eu besoin d'envoyer son fils Jésus. Non, il a créé des personnes différentes, uniques. Tu es unique. Tu es voulu tel que tu es, avec tes forces que d'autres n'ont pas, avec tes talents, tes apprentissages, tes dons spirituels, ta personnalité, tes traits de caractère. Dieu t'a voulu comme ça. C'est important que tu saches aussi qui tu es. Que tu apprennes donc aussi à te connaître. Que tu connaisses tes forces et aussi tes faiblesses, mais que tu mises tout sur tes forces parce que c'est vraiment ça que tu es. Et ça va te permettre, si tu te connais, ça va te permettre par la suite de te respecter. De te respecter. De faire des choix qui sont conformes. On parle d'intégrité, de faire des choix qui sont conformes à ta personne, à ta nature, à ton âme. Okay? Demande à Dieu de te montrer qui tu es. Fais des tests de personnalité. Honnêtement, je conseille ça à tout le monde. Et c'est pas une question d'âge, hein. C'est pas nécessairement parce qu'on est plus vieux qu'on se connaît mieux. Non, il faut prendre le temps de réfléchir à soi. Il faut faire ce travail-là. Apprends à te connaître parce que t'es pris avec toi-même, t'es pogné avec toi-même pour le restant de tes jours. Fait que t'es aussi bien de savoir avec qui tu travailles, OK? Genre, ça vaut la peine. Et pour être une personne intègre, tu dois rester donc fidèle à toi-même. Mais attention, hein, toi-même tel que Christ te définit, OK? C'est vraiment important de le dire. C'est Dieu qui nous dit qui nous sommes. Parce que la société te dit que tu peux te définir toi-même, mais la parole de Dieu nous dit que c'est Dieu qui nous définit. Et j'en reviens à mon monsieur patate. Je ne sais pas si vous avez vu passer dans les derniers mois, mais bon, mais il se désagrège en plus, ça va pas bien. Hey, ouais, c'est bon ça, les. Ouais, j'aurais dit. Pourquoi c'est pas noté ça, désintégré? Il se désintègre, il n'est plus intègre à lui-même. Mais dans les derniers mois, justement, il y a une nouvelle qui est apparue, là, ça a fait comme la une, là. Mais Monsieur Patate et Madame Patate n'existent plus, ils sont maintenant non-genrés. OK? Donc, maintenant, c'est des potato heads, là. C'est patate, là. Mais pas monsieur ou madame. Patate. C'est une patate, mais c'est pas un monsieur ou une madame. OK? Vous voyez où je veux en venir? La société essaie de passer un message ici. OK? Mais nous, nous croyons que c'est la parole de Dieu qui nous définit. OK? S'il y a quelque chose qui est contraire, que tu crois qui te définit, qui est contraire à la parole de Dieu, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Ton identité sera jamais en dehors de ce que Dieu dit de toi. Et c'est spécial parce que la parole de Dieu nous déclare ceci dans Romains 8, 29. C'est un beau mélange, un beau mystère. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes ou semblables à l'image de son Fils, pour qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. Okay? En d'autres termes, en devenant chrétien, tu ne deviens pas Jésus. Je veux dire, Jésus, c'est une personne. Il est lui. Tu ne deviens pas Jésus. Tu comprends? Tu ne deviens pas lui, là. Mais dans le mystère de la nouvelle création que tu deviens, tu conserves ton unicité tout en étant appelé à devenir de plus en plus semblable à Christ, à lui ressembler, à être ses frères et sœurs. À être ses frères et sœurs. Et comme des frères jumeaux qui partagent le même ADN, c'est incroyable ça, les frères jumeaux, la même nature, le même ADN, c'est incroyable, c'est comme ça, on est de la même nature maintenant à cause de Jésus, à cause de ce qu'il a fait, on est de même nature que lui, wow, quel privilège, mais on est quand même différent, semblable à Christ, mais différent par ton unicité, c'est fou. Et je répète encore une fois, donc l'intégrité, c'est quand ton comportement est conforme à qui tu es, en accord avec l'Esprit de Christ qui habite en toi. Toujours en accord, oui, à qui tu es, mais en accord avec Christ. Okay? Si tu crois que tu es sans valeur, que tu ne sers à rien, ça ne devrait pas te définir parce que la Bible dit que c'est le contraire. Tu es la valeur que Christ a payée à la croix de toute façon. Si tu crois que ta colère ou ton alcoolisme fait partie de toi, qui fait que tu dois l'accepter, genre, ben, ah, je suis de même. Non, c'est pas ça. Non, t'es pas comme ça, dans le fond. C'est faux. Ça, c'est le péché en toi. Puis peut-être que derrière ta colère, ben, se cache quelqu'un de juste très déterminé. Puis dans le fond, c'était une belle caractéristique, mais qui a été souillée, finalement, par le péché. Fait qu'attention, il faut départager ces choses-là. Moi, je te parle de ta personnalité, de tes traits de caractère, tels que Dieu voulait te définir avant que le péché voulait te compromettre. Dieu veut que tu arrives à te voir comme il t'a créé et à te respecter. Parce que c'est ça le but, là, d'apprendre à se connaître, c'est après se respecter. Il y en a qui n'ont pas de difficulté à respecter les autres, hein, mais ils ont de la difficulté à se respecter eux-mêmes. Quel don est-ce que Dieu t'a donné? Quel trait est-ce qu'il t'a donné pour que tu puisses agir en conséquence? Okay, comme tu vas respecter les limites des autres, tu vas respecter la personnalité des autres, leur sensibilité, on n'agit pas de la même façon avec les autres personnes, mais toi, tu as besoin de te respecter toi-même aussi. Acceptes-tu tes limites? Connais-tu tes faiblesses? Connais-tu tes forces? Elles sont belles. Connais-tu tes forces, tes dons, tes traits de caractère? Et fais-tu des choix en fonction de ça? Fais-tu des choix de vie, des choix au quotidien en fonction de ça? Par exemple, si tu choisis un métier qui t'oblige à travailler tellement que tu fais un burn-out, ben tu te respectes pas. Tu n'as pas respecté tes limites, soit par culpabilité, soit pour l'argent ou pour d'autres raisons, mais tu es en train de te compromettre. Si tu continues de fréquenter un ami qui te rend malheureux, tu ne te respectes pas. Tu maintiens cette relation-là peut-être pour plaire à la personne ou par culpabilité. Si tu choisis de rester consciemment pendant des années dans un emploi que tu n'aimes pas juste parce qu'il est plus payant, ben justement, tu es en train de vendre une petite partie de toi contre ben, un peu plus d'argent, en fait. Si tu acceptes de faire quelque chose qui ne te tente pas du tout aussi, des choix, sans être des choix de vie, là, des choses qui ne te tentent pas, je sais pas moi, aller au cinéma avec l'autre personne. Si ça ne te tente pas, demande-toi, est-ce que c'est par culpabilité si tu le fais? Est-ce que c'est par pression? Est-ce que c'est pour plaire? Est-ce que tu es en train de faire des compromis sur qui tu es vraiment? Même dans les petits choix, dans les grands choix comme dans les petits choix. Tu as le droit de ne pas aimer les vacances, à rien faire au bord de la mer, OK? Tu as le droit. OK, ça t'ennuie, tu es extraverti, il faut que tu vois du monde, il faut que tu fasses de quoi. Tu as le droit aussi d'aimer travailler dans un bureau parce que tu aimes les petites routines, tu aimes pas trop voir du monde. Tu as le droit aussi, tu aimes être organisé et tout. Tu as le droit d'avoir des préférences dans ta façon même de vivre ta spiritualité. Oh! Oh! Quand même, je vais vous donner des exemples. Dans l'Église aussi, ça prend de tout, des intellectuels, des artistes, des pragmatiques, des extravertis, des introvertis, des enseignants, des personnes hospitalières, des pasteurs, des placeurs, etc., etc., etc. Et c'est même pas que tu as le droit d'avoir des préférences, mais c'est en fait que tout simplement Dieu t'a créé comme ça. Dieu t'a créé comme ça. Alors maintenant, tu dois faire des choix, prendre des décisions conformément à qui tu es. Certains ont besoin de s'enlever une pression de faire des choses qui ne leur correspondent pas. Et j'ai un scoop pour vous ce matin, OK? Dans la vie, tu ne pourras pas tout faire. OK? Ça, dans la vie. Oh oui, maison. Amen. Merci, Seigneur, de nous enlever cette pression. Mais il va falloir que tu fasses des choix. Si tu ne peux pas tout faire, tu dois faire des choix. OK? Tu ne pourras pas accepter toutes les opportunités qui s'offrent à toi, tous les emplois possibles, toutes les relations possibles, tous les rendez-vous possibles, toutes les activités possibles, tous les voyages possibles, toutes les causes possibles non plus, toutes les causes de justice qui, tout est bon, c'est des bonnes causes, mais on ne peut pas toutes les faire. On n'est pas des super-héros. Et même à ça, Jésus ne l'a même pas fait lui-même parce qu'il a pris un corps humain. Lui aussi, il a respecté sa limite humaine. Il n'a pas guéri tous les malades. C'est fou. Je lisais le passage sur le paralytique cette semaine. Il a guéri combien de malades à la piscine? Un. Mais ça dit qu'il y avait toutes sortes de malades. Il a guéri un malade. C'est fou. Jésus a accepté ses limites humaines. Alors, laisse-moi dire qu'on doit faire de même aussi. Et on doit faire des choix, donc, selon nos forces, selon nos dons, selon nos capacités. En d'autres termes, focus. Focus, OK? Mon astuce, justement, pour focuser, pour rester fidèle à toi-même, il y en a beaucoup qui ont besoin d'apprendre à dire non. Apprendre à dire non. Apprendre à dire non aux choses qui t'empêchent de focaliser sur tes forces ou qui ne concordent pas avec certains traits de tes caractères. Okay, j'ai fait un voyage missionnaire dans ma vie, un seul. Ça a duré 2 jours. Et à moins que Dieu m'appelle d'une façon audible, Élise, va en Afrique, je ne crois pas que je vais refaire l'expérience, retenter l'expérience. On va rester à un voyage missionnaire, OK? Parce qu'après cette fin de semaine-là, je me suis dit, je suis vraiment pas faite pour être missionnaire. J'aime la routine, j'aime quand les choses sont organisées, quand je sais qu'est-ce qui s'en vient un peu à l'avance. Je suis pas bonne pour gérer les malaises sociaux, pour dormir chez des gens que je connais pas. Je suis pas bonne. Ça marche pas avec moi. Et tout ça, c'est pas meilleur ou moins bon qu'un missionnaire qui, lui, est capable de faire ça. Il est bon là-dedans. C'est juste différent. C'est juste différent. Alors, je laisse ces projets-là à d'autres personnes dont c'est leur don. Et est-ce que je me suis déjà battue avec la culpabilité à cause de ça? Ben oui, un peu. Est-ce que je me suis déjà remise en question? Oui, effectivement. Est-ce que je devrais en faire plus ou, sortir de ma zone de confort? Mais après réflexion, j'ai compris qu'au lieu de perdre mon temps pour essayer d'améliorer à tout prix mes faiblesses, j'allais donner le paquet dans mes forces. OK? J'allais dire non aux choses qui ne fitaient pas, finalement. Et la semaine prochaine, attention, je vais vous parler du zèle aussi versus la paresse. Et on veut justement trouver un certain équilibre parce que ça arrive parfois où Dieu nous demande de faire un bout de chemin de plus, nous demande de sortir de notre zone de confort, nous demande de faire quelque chose qui ne nous correspond pas tant que ça. Ça arrive aussi. Et Dieu, on devient semblable à Christ, hein? Fait que ça se fait pas du jour au lendemain, donc on s'étire tranquillement. On devient une autre forme de patate tranquillement qui ressemble plus à Jésus. Et ça, oui, ça nous tire, ça nous sort de notre zone de confort. Mais en règle générale, si tu veux rester intègre à toi, tu dois agir selon comment Dieu t'a créé. Il nous demande pas de faire des choses complètement différentes de ce qu'il nous donne, Dieu. Voyons donc, chacun a sa place dans le monde, selon nos dons, nos forces que lui-même a choisi de nous donner. C'est ça, c'est un don. Il nous fait un cadeau pour qu'on l'utilise. On doit donc fonder nos choix dans la parole de Dieu, mais aussi selon qui nous sommes, en Christ, comment il nous a créés pour rester intègres. Être intègre, c'est donc rester fidèle à toi-même en faisant des choix basés sur ta personnalité que Dieu t'a donnée. Et comme dernier point ce matin, si tu as envie d'être intègre, voici comment faire pour reconnaître le chemin de l'intégrité. L'intégrité, comme j'ai dit un peu dans l'introduction de la série aussi, l'intégrité et le chemin de la sagesse, c'est un chemin de lumière. Un chemin de lumière. Et là où il y a de la lumière, il n'y a rien à craindre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous raconter des histoires de peur quand vous étiez jeune, ou en tout cas quand on allait dans des camps de vacances. Autour du feu, ça se passait souvent là le soir avec la forêt autour, puis là il fait noir, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière et tout. Et là, les moniteurs nous racontent une histoire un peu épeurante, et ça marche, hein, ça marche. On a peur, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière toi, tu te dis « ok, quelqu'un va sauter » ou... Mais si cette même histoire-là était racontée à 1h de l'après-midi, ça ferait pas le même effet. Peut-être même ça ferait même pas peur, OK? Ça fait peur parce qu'il fait noir, tu sais pas, tu te sens pas en sécurité, tu vois pas. Mais sur le chemin de l'intégrité, tu n'as rien à craindre parce que tu es en sécurité, tu es sur un chemin de lumière. Proverbe 2, 7, 8 nous dit « Dieu tient le succès en réserve pour les hommes droits. » Oh, wow! C'est bien ça? Il est un bouclier, donc il t'apporte sécurité pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Il protège les sentiers de l'équité et il veille sur le chemin de ses fidèles. Proverbe 10, 9 nous dit « Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité, mais celui qui emprunte des voies tortueuses sera découvert. » Psaume 26, 11 nous dit « Mon bouclier est auprès de Dieu. Il sauve ceux dont le cœur est droit. » Et Psaume 7, 9 nous dit « L'Éternel exerce son jugement sur les peuples. » Et là, David va s'écrier, il va dire « Juge-moi, Éternel, conformément à ma justice et à mon intégrité. » C'est rare qu'on veut recevoir le jugement de quelqu'un. Pourquoi est-ce que le chemin de l'intégrité est une voie sécuritaire pour le juste? Parce qu'il ne redoute pas le jugement. Juge-moi selon mon intégrité, selon la justice. OK, avoue que tu n'as pas la même attitude quand tu te fais arrêter par un policier et que tu sais que tu as clairement fait quelque chose de pas correct versus si tu n'avais rien à te reprocher. Là, tu roulais bien correct, tout était beau, ta voiture, c'est une voiture de l'année, il n'y a pas de problème avec ta voiture. Si tu te fais arrêter, tu vas dire comme « Oh, bonjour, monsieur l'agent, que se passe-t-il? » Voilà, plus en mode surprise. Mais si, par contre, tu sais que tu as dépassé la limite de vitesse de 20, ton cœur va se mettre à pomper et te dire « Ah non, j'aurais pas dû me faire pogner. » Non, une personne intègre va pas dire ça. La personne intègre va dire « Je n'aurais pas dû rouler aussi vite. » Et là, tu commences à pomper, tu sais que tu es coupable. Est-ce que vous savez pourquoi je vous arrête, madame? Ben oui, j'ai roulé trop vite. Je suis désolée, monsieur l'agent. OK? Vraiment deux ambiances différentes. C'est la même chose avec Dieu. Et là, attention, on est sauvé par la grâce. Notre justice, c'est Jésus. Notre justice, c'est Christ, là. On est sauvé par la grâce. Il faut mettre ça au clair. Là. On n'est pas sauvé parce qu'on marche droit. Là. Non, on marche pas droit, de toute façon. On est sauvé par la grâce. Pas parce qu'on fait des bonnes choses. Mais il y a quand même, attention ici, il y a quand même une récompense associée au fait de rester le plus possible sur le droit chemin. Quand tu persévères dans l'intégrité, tu n'as pas à craindre les conséquences de tes mauvais choix. Tu n'as pas à vivre les regrets de tes péchés, de tes erreurs, les blessures que tu pourrais infliger aux autres et la correction de Dieu. Tu n'as pas à la craindre parce que tu marches droit. Tu te sais faire les choses que Dieu te demande de faire. Quand tu restes intègre, tu n'as rien à craindre. Mais puisqu'on ne reste pas toujours intègre, puisque ça nous arrive à tous de pécher, hein? On s'entend? Quand tu dévies du droit chemin, tu n'as rien à craindre non plus si tu retournes sur le chemin de la lumière. Que tu es intègre justement à ce moment-là envers Dieu en avouant tes fautes, parce que Dieu est fidèle et juste pour te les pardonner. N'aie pas peur non plus, même si tu n'es pas sur le bon chemin. Ceux qui devraient redouter Dieu, en fait, c'est pas ses enfants, mais c'est ceux qui font le mal et qui veulent pas se repentir. Proverbe 10, 29 nous dit ceci. La voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, donc un rempart, quelque chose qui protège. Mais elle provoque la ruine de ceux qui commettent l'injustice. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, quoi? La voie de l'Éternel peut provoquer quelque chose de négatif? Ben oui, elle provoque, c'est la voie de l'Éternel qui provoque la ruine, mais de ceux qui commettent l'injustice. Et parfois, on dirait qu'en tant que croyant, on a plus peur des hommes que de Dieu. Et que les autres, eux, semblent avoir peur de rien et surtout pas de Dieu. On s'entend? Tu es peut-être prêt à compromettre ta foi par crainte des hommes, pour leur plaire, pour pas avoir l'air étrange ou différent. Inquiète-toi pas, les chrétiens ont de l'air étrange. Faut se le dire, là. Non, c'est pas vrai. Non, en tout cas, on est à contre-courant, clairement. On est différent. Alors qu'en fait, c'est eux qui devraient trembler de peur. C'est eux qui devraient trembler de peur. Le pire compromis que tu peux faire, c'est renier en fait ta foi devant les autres. Ne fais pas de compromis en cachant la foi qui est dans ton cœur. Hein? On veut être intègre, on veut être une part, on veut que nos actions correspondent avec ce qui est à l'intérieur de nous. Laisse-la briller devant tout le monde, ta foi. En demeurant sur le chemin de la lumière, en fait, tu finis par devenir toi-même un témoignage de lumière. Donne à penser pour ce matin, pendant que les musiciens peuvent s'approcher. Jésus va dire ceci à ses disciples dans Matthieu 10, 18. « À cause de moi, vous serez conduits devant des gouverneurs et devant des rois pour leur apporter votre témoignage. » N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être reconnu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce que je vous dis à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. C'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle, devant mon Père céleste. Le plus grand bienfait est de loin de ta marche sur le chemin de l'intégrité, du fait de persévérer sur le droit chemin, c'est de devenir un témoignage. Le milliardaire Warren Buffett a dit ceci. Il faut 20 ans pour construire une réputation et 5 minutes pour la détruire. Si vous gardez ça à l'esprit, vous vous comportez différemment. Wow! Une mauvaise décision peut complètement anéantir ton témoignage. Ne sous-estime jamais, mais l'inverse est vrai, si tu restes sur le droit chemin, la valeur que ce témoignage apporte, c'est incroyable. Ne sous-estime jamais la puissance du témoignage d'une vie juste, d'une vie intègre, d'une vie qui suit les principes de la parole de Dieu. Et Jésus nous dit ceci dans Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Amen. On est appelé à faire ressurgir ce témoignage de lumière jusqu'à l'extérieur, par nos comportements, par nos paroles. Et comme vous avez vu mon annonce sur la recherche de mon monsieur Patate, j'ai pas réussi à trouver de monsieur Patate, mais quand j'ai fait mon annonce, en fait, ma mère est venue me dire quelques minutes, quelques heures après que j'ai fait mon annonce, elle vient me voir, elle dit « Ah, ben c'est plate, hein, on avait reçu des boîtes de jouets à donner, puis finalement, je viens d'aller les porter au sac, au service d'aide communautaire, et puis, ben il y avait un monsieur Patate dedans. » Fait que là, je dis, c'était quoi les chances que ceci arrive? Et donc, j'ai laissé les jours passer pour dire, ben je vais peut-être en trouver un, finalement, un monsieur Patate. Je vais peut-être finir par trouver pour mon illustration. Finalement, non, j'en ai pas trouvé. Donc, hier, j'ai prié pour un monsieur Patate, imaginez. Ben oui, dans la vie, on peut prier pour toutes sortes de choses. Donc, je peux dire maintenant que j'ai prié pour un monsieur Patate. Mais je priais pour que je puisse aller au service d'aide communautaire et trouver mon monsieur Patate et pouvoir l'acheter finalement. J'espérais qu'il l'ait trié déjà et qu'il soit disponible, qu'il n'ait pas été acheté. Fait que j'arrive au sac, à la friperie, j'ouvre la porte, puis là, je me dirige tout de suite dans les jouets. Il faut que je prenne la main là-dessus. Et finalement, qu'est-ce que je trouve dans les jouets? Le monsieur Patate. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben j'ai pris le sac du monsieur Patate. Et je suis allée l'acheter. Je suis allée racheter mon monsieur Patate. C'est quand même drôle, hein? Il était chez moi, en fait. Je l'aurais eu gratuitement, mais je suis allée le racheter. Bon, 2 piastres, c'est super. Je suis allée racheter monsieur Patate parce que pour moi, il y avait de la valeur. Pour moi, il y avait de la valeur. J'en avais besoin. Il y avait de la valeur pour moi. Et quand j'ai vécu ça, je me suis dit, hé là là, il y a quelque chose à aller chercher, là. 1 Corinthiens 6, 20 nous dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. » Le sang de Jésus, la communion qu'on a pris tout à l'heure. « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu, dans notre intégralité, dans notre intégrité, parce qu'il nous a rachetés. » Arrête de faire des compromis, de vendre des petites parties de toi. Tu as été racheté par le sang de Jésus, tel que tu étais, avec ton unicité, avec tes caractéristiques, avec tes dons, avec ta personnalité. Tu as été racheté par le sang de Christ. Tu as besoin de l'entendre ce matin. Tu as besoin de l'entendre ce matin. Arrête de faire des compromis et vis pleinement pour Jésus qui t'a racheté. J'aimerais qu'on se lève ensemble. Je veux prier pour vous. Seigneur, je te prie maintenant, dès maintenant, viens par ton esprit. Seigneur, parlez au cœur de ceux qui ont besoin de savoir qui ils sont en toi, Seigneur. Viens dévoiler qui ils sont parce que tu les as créés d'une certaine manière, Seigneur, pour te servir. Tu veux te servir de chacun d'entre nous, Seigneur, là où nous sommes dans notre propre cercle d'influence, pour l'Église. Là où ils sont, Seigneur, dans leurs dons, avec leur personnalité, Seigneur. Viens mettre en lumière qui ils sont vraiment selon ta parole, Seigneur. Viens mettre en lumière qu'ils puissent avoir un regard extérieur, ton regard, Seigneur, sur qui ils sont, Seigneur, qu'ils puissent se découvrir, que chaque personne ici puisse se découvrir, Seigneur, tel que tu les as créés, Seigneur. Viens par ton esprit révéler, mettre en lumière, Seigneur, qui nous sommes, notre âme que tu es venu sauver par ton sang. Et Seigneur, je veux te prier aussi pour chacun d'entre nous qui veut s'engager à rester intègre, Seigneur, face à toi. À ce que nos gestes correspondent à qui nous sommes, mais surtout, Seigneur, à ta parole, à qui tu es, Seigneur. Seigneur, nous voulons rester intègres. Nous voulons nous engager, Seigneur, à t'aimer intégralement, à t'aimer de tous nos cœurs, par nos paroles, par nos gestes, par notre pensée, Seigneur, dans les choses qui sont le plus secrets que dans nos comportements, Seigneur, nous voulons nous engager à marcher de manière intègre sur le chemin de la lumière où rien n'est caché, où nous n'avons rien à craindre, Seigneur. Et s'il y en a qui doivent retourner sur ce chemin, Seigneur, accorde ton pardon, tu l'accordes. J'ai même pas besoin de te demander. Tu accordes ton pardon, Seigneur, qu'il puisse se sentir pardonné, se savoir pardonné, Seigneur. Par ton esprit, viens parler au cœur, Seigneur, ce matin. Chantons ce chant de consécration ce matin ensemble.